écoute, c'est du belge.
Il vient de Morlan, oui. Il a une magnifique barbe et il porte beaucoup mieux la chemise en flanelle que moi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Diego Straz. Salut Diego, je suis ravi de te recevoir sur Ultrason. Alors Diego, guitariste, bassiste, auteur, compositeur, réalisateur, peintre.
Oui.
C'est pas trop pour un seul homme ça.
J'essaye de me débrouiller avec tout ça et je fais un peu ce que je peux, ouais.
Alors Diego, avant d'aborder ton actualité avec la sortie de ton dernier album, j'aimerais qu'on fasse un peu connaissance avec toi. Tu joues de la musique depuis plus de 30 ans.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai commencé comme beaucoup d'adolescents, si tu veux, vers l'âge de 15-16 ans, comme ça. Et j'ai monté mon premier groupe et finalement, j'ai jamais arrêté.
Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique ?
Alors d'abord un papa musicien. Et ensuite très très vite j'avais envie de j'ai ressenti des pulsions créatives en fait, j'avais vraiment envie de créer. D'ailleurs j'ai fait très très peu de ce qu'on appelle de covers, moi ça a jamais été mon truc. Dès que j'ai appris mes premiers accords, j'ai commencé à composer de la musique.
T'as commencé par quel instrument en fait ?
Alors le premier groupe c'était à la basse. Ouais. Et c'est marrant parce que finalement je suis encore entre autres à la basse et surtout avec mon projet solo je suis à la basse. Mais c'était alors à la maison un peu de guitare acoustique, tu sais quand tu démarres t'apprends tes premiers accords, mais en groupe pour la première fois c'était la basse.
Donc t'as toujours été un créatif depuis tout petit.
Oui constamment et il m'a fallu du temps aussi pour analyser tout ça, pour me dire pour essayer de comprendre pourquoi moi je ressentais les choses un peu autrement. Et puis quand je voyais, tu sais, dans la vie, tu vois, des membres de ta famille, des amis qui évoluent d'une manière dans leur vie, et toi, t'es un petit peu en décalage. Alors pas du tout Calimero, hein. Pour ceux qui savent qui est encore Calimero, parce qu'évidemment
à notre âge,
oui, c'est ça. Mais non, j'étais pas le vilain petit canard de la famille. C'est pas du tout ça, mais c'est vrai que j'avais un regard peut-être différent sur les choses et je les exprimais autrement.
Alors, avec une expérience scénique de plus de 30 ans, tu as dû en connaître des choses sympas. Quels sont tes meilleurs souvenirs ?
Ah, il y en a plein. Autant des concerts que j'ai pu voir, autant des rencontres. Mais après, moi, ce que j'aime, c'est vraiment les partages humains, en fait. Au-delà de la scène, mais ce qui peut justement se passer derrière la scène. Les rencontres, et c'est pas particulièrement des gens hyper connus, c'est aussi des gens que je croise encore maintenant qui sont des amis, avec qui j'ai pu partager la scène, parce que l'essentiel c'est ça, c'est surtout l'échange, et c'est ça, c'est ce que j'aime en fait, parce que après la notoriété et tout ça, c'est des choses qui vont, qui viennent, et qui ont finalement pas énormément de sens, quoi.
Alors, on en parlait tout à l'heure en off, parmi les faits marquants de ton parcours, hein. Il y a un départ en France en 2009, dans le studio de Francis Cabrel.
Oui.
Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas ?
Alors, donc en 2009, je sors mon premier album. J'ai de la chance, ou simplement j'ai beaucoup travaillé, je ne sais pas. Mais je me retrouve au Francofolie de Spa. Je fais un concert, je fais une rencontre. Ce gars me dit qu'il est en train de travailler sur un projet en France. Quelques mois plus tard, il m'appelle. Et il me dit, voilà, on a déjà essayé deux bassistes, mais on n'a pas ce qu'on veut au niveau du son. Et il dit, on aimerait que tu viennes. Donc moi, je suis parti, je lui ai demandé les morceaux pour les apprendre avant de partir. Il m'a dit, non, t'arrives sur place, t'es obligé, t'apprends sur place et tu joues. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Il s'avérait que c'était dans les studios de Francis Cabrel. Il s'avérait que c'était le premier album de la fille de Francis Cabrel, Aurélie. Ouais. Et l'aventure a commencé comme ça, puis il y a eu un deuxième album, il y a eu des promos, il y a eu des tournées.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir le studio de Francis Cabrel à disposition ? C'est guitare peut-être ?
Ouais, c'est génial. C'est vrai que... Alors après, ça dépend des individus. Moi, je ne suis pas... moi, comme je te disais, j'aime les relations humaines simples. Ouais. Je ne suis pas fan de... Mm-hmm. Bon, je suis fan... en gros de personnes. J'ai de l'admiration artistique, j'ai de l'admiration humaine, mais par contre c'est vrai que se retrouver dans ce genre de studio, bon déjà très grand studio, cadre magnifique au sein de sa propriété, Francis super génial, dès que j'ai eu besoin d'un truc il m'a dit écoute viens choisir des guitares, il m'a amené dans... Il a une pièce à lui où il amène très peu de gens d'ailleurs, et je ne le savais pas à ce moment-là, mais il m'a dit vas-y, choisis les guitares que tu as envie d'utiliser pour l'album. Et donc j'ai pu choisir les guitares. Et par la suite, j'ai même beaucoup travaillé dans son studio, puisque j'ai mixé des albums dans son studio. Et ça a été aussi une très très belle opportunité pour moi. Très belle rencontre et très belle opportunité professionnelle. Quoi.
Ouais. Donc tu as beaucoup travaillé en studio, tu as aussi été musicien de session.
Oui.
Tu as fait des mix, des musiques de documentaires.
Oui.
Tu touches à tout. En fait.
Bah, c'est-à-dire que oui, mais ça se fait assez naturellement parce que moi, dès le départ, je me suis dit, je veux faire de la musique. Et évidemment en partant de Morlanway, je dirais,
ouais.
Non pas que c'est pas du tout péjoratif, hein, mais je veux dire on part d'une petite ville, d'un petit village, et on se dit on veut faire de la musique. Alors l'idée elle est bonne, sauf qu'à un moment en restant là, il va pas se passer grand chose, donc il faut réussir à un peu s'expatrier, il faut bouger. Et après aussi, l'idée, c'était de continuer à en faire. Donc, être que guitariste de session ou que guitariste de scène, ça ne te nourrit pas totalement. Il y a très peu de gens qui peuvent le faire. Et moi, j'avais plusieurs casquettes avec plusieurs compétences. Oui. Et notamment, j'avais ce goût du son et de la production, etc.
Et donc, je
suis devenu ingénieur du son, ouais, ouais. Et finalement, je me suis retrouvé à mixer des albums... que d'autres avaient laissé tomber parce que trop complexe, et on m'appelait, et moi, comme je vais jusqu'au bout, en fait, moi j'ai jamais de limite en réalité, et donc j'allais jusqu'au bout, j'arrivais à mixer des choses qui étaient plutôt complexes au départ, mais qui sont, pour moi c'est des challenges, j'adore ça en fait.
Ouais, ouais. Et puis cette envie de revenir à ta musique.
Oui, en fait jusque pratiquement il y a trois ans, Je suis encore retourné retravailler un peu dans les studios de Francis, mais surtout sa fille avait monté un label, etc. Donc j'ai pas mal bossé avec eux. Mais je pense que tout simplement j'avais fait le tour, quoi. Et j'avais envie de vraiment me consacrer à ma musique, de me libérer de beaucoup de choses, c'est-à-dire de pouvoir m'exprimer totalement. On parlait hors antenne de ma manière aussi d'utiliser la métrique rythmique dans les batteries, etc. Et moi, j'en avais marre de rester bloqué dans du 4-4 traditionnel, et j'avais envie de faire de la musique un peu autrement. Écoutable, évidemment,
ouais, ouais.
Parce que j'ai envie que ce soit accessible et que ce soit fluide à l'oreille, mais un peu surprenant et pourquoi pas un petit peu complexe parfois.
Voilà, donc on va parler de ton quatrième album, hein, puisque tu es venu aujourd'hui spécialement pour ça. Donc, album qui s'appelle En mouvement constant, parle-nous un petit peu de cet album.
Alors, cet album, en fait, il est né immédiatement après l'album que j'avais fait, qui s'appelait L'Empire de Poussière. En fait, je fais cet album, je me dis, ok, je le sors, et puis je dis, je vais tourner. Et finalement, ça s'est pas fait parce que j'avais pas trouvé l'équipe nécessaire, j'avais pas vraiment, ou peut-être un manque de motivation, j'en sais rien, hein, parce que parfois, on se cherche des excuses, mais
ouais.
Il s'est avéré que de toute façon, ça s'est pas fait. Et plutôt que de me dire c'est dommage et de m'apitoyer sur mon sort, j'avais comme je suis plutôt créatif et j'avais encore de nouvelles idées, etc. J'ai dit allez, je redémarre immédiatement sur un nouvel album, et j'ai pris le temps de le faire, j'ai pris le temps d'écrire, je voulais encore peaufiner, d'aller un peu plus loin dans les textes et aussi dans musicalement, dans les harmonies, etc. Je voulais aller un peu plus loin, et c'est un album dont je suis quand même très très fier, parce que souvent dès que tu sors d'un album quelques temps après, en tout cas ça a souvent été le cas pour moi, je l'aime plus l'album,
ouais.
C'est-à-dire que je suis déjà ailleurs, donc
ouais, t'as beaucoup travaillé dessus,
oui, et puis t'es déjà ailleurs, et donc si tu veux ça ne correspond plus réellement à ce que t'as envie de faire, mais par contre tu dois commencer à le défendre sur scène, et c'est
ouais.
compliqué,
ouais.
Et là en l'occurrence je suis plutôt content parce que là j'ai commencé à rejouer les morceaux en vue des concerts prochains, et je kiffe. Donc c'est pas mal quand même de kiffer encore sa musique.
C'est mieux. Il y a combien de morceaux sur cet album ?
Il y a 9 titres.
Ouais. Et quels sont les thèmes que tu abordes dans ton album ?
Alors dans le dernier, c'est plutôt vaste, mais ça reste beaucoup sur les ressentis, les émotions, etc. Un morceau comme En mouvement constant, c'est un peu différent. C'est une espèce d'histoire et de voyage à travers le Canada. Là oui, pour le coup, ce titre en particulier est peut-être un peu différent au niveau du texte. C'est vraiment une petite histoire, c'est un cheminement, un parcours sur les routes canadiennes.
Quelque chose que tu as vécu personnellement ?
Oui, parce que après moi je...
D'où la chemise en flanelle ?
La chemise de bûcheron, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais après, si tu veux, c'est quelque chose qui, peu importe l'endroit, mais l'idée, c'est surtout le cheminement, c'est le parcours, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas, aller vers l'inconnu et découvrir peut-être quelque chose d'encore plus riche. Parfois, il faut oser s'extraire de ce qu'on est et de là où on est pour essayer de s'enrichir.
Ouais. Est-ce que tu mets beaucoup de choses personnelles dans tes albums ?
Alors, oui, mais toujours de manière détournée. Parce que j'ai peut-être cette espèce de pudeur, de cette difficulté parfois de parler en profondeur de mes émotions. Et donc parfois je trouve des personnages qui parlent à ma place.
Ouais, voilà, tu utilises ces personnages un peu pour décrire l'entourage, l'environnement.
Oui.
Mais en fait, c'est toi que tu parles.
Oui, ou des bouts de moi, en fait, parce que ça peut être, tu sais, on peut être au coin d'une table, on discute et tu te confies à moi, tu me dis quelque chose. Évidemment, je vais prendre ton émotion. Et je vais la retraduire. Donc, ça parle un peu de moi, ça parle un peu de toi, ça peut parler un peu d'amis, de vécu. Mais quand ça rentre dans le bon contexte pour une chanson, j'utilise toutes ces émotions-là, en fait, parce que finalement, en tant qu'artiste ou artisan de tout ça, on est des éponges. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aspire un peu tout ce qu'on nous dit et toutes les émotions qu'on nous transmet. Et à un moment, quand tu presses l'éponge, tout ressort et ça devient des chansons, quoi.
Voilà, bon, on a beaucoup parlé de ce morceau, on va l'écouter.
Avec plaisir.
Écoute, c'est du belge, on est en compagnie de Diego Straz. On écoutait le morceau En mouvement constant, qui est un peu, qui figure sur l'album éponyme. Ce morceau, tu joues de la musique, tu joues du rock, tu chantes en français. Ça s'impose comme une évidence pour toi de chanter en français. Pourquoi ce choix ?
Oui, mais tu as raison de le dire, c'est un vrai choix. Parce que, avec la musique que je fais, ça aurait été bien plus simple que ce soit en anglais. C'est-à-dire que j'aurais pu toucher beaucoup plus de personnes. Je crois que je fais une musique rock, parfois un peu plus alternative, parfois un peu plus pop, parce que ça reste mélodieux, donc on va dire que ça peut être un peu pop par rapport aux mélodies. Mais il est vrai que si j'avais eu vraiment cette envie de le faire en anglais, les choses auraient été encore plus simples. Sauf que moi, bon, déjà, je crois que j'ai un très mauvais accent anglais. Hein. Donc, basiquement, ça peut peut-être être la raison.
Je vais pas vous poser la question. Maintenant, je suppose que ça permet aussi d'aller plus en profondeur dans les textes.
Oui,
que l'anglais.
Oui, et puis oui, parce que quand tu analyses un peu les textes, quand tu traduis les textes en anglais à l'heure actuelle,
c'est mieux de pas les traduire.
Voilà. Je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Mais moi, j'adore la langue française, et parce que la langue française, c'est quand même, c'est vraiment la langue de la poésie. Et puis en plus, tu peux vraiment aller en profondeur. T'as plein de mots pour dire une seule chose, et tu peux vraiment aller en profondeur dans tes émotions, et tu peux donner des très très belles images. Pour justement parfois on parlait de la manière de s'exprimer, mais pour camoufler des émotions ou pour camoufler un sentiment, tu peux imager les choses, et ça j'adore ça.
Ouais,
dans la langue française,
métaphore,
oui, exactement, ouais.
Comme ça, quoi.
Et la langue française elle est géniale pour ça, et j'ai envie de défendre cette langue puisque c'est ma langue.
Ouais.
Et donc à un moment après encore une fois chacun fait comme il veut et comme il le ressent, mais moi, c'est aussi une réelle envie de défendre cette langue.
Mais paradoxalement, est-ce que ça ne te ferme pas la porte de certaines radios ?
Probablement, mais je suis quand même bien décidé à faire ce que j'ai envie maintenant.
Ouais, si tu peux te le permettre.
Ça ferme peut-être des portes, et puis parce que quand t'analyses un peu, tu sais, on dit on est des groupes belges, mais à partir du moment où je chante en français, je suis plus qu'un groupe wallon, quoi, en fait. Parce que
France à côté quand même.
Il y a la France, mais je veux dire en dans la Belgique, ouais, immédiatement. Ouais. Et d'ailleurs même pareil pour nos amis néerlandophones. S'ils décident de chanter en néerlandais, ils ont très peu de chances de se retrouver à faire des concerts en Wallonie. Ouais. C'est dommage,
c'est pour
mais
ça
c'est
qu'Arnaud chantait en français.
Mais oui, mais c'est dommage, mais c'est une réalité. Donc si tu veux, oui, c'est sûr que ça peut fermer des portes, mais en même temps, je crois que il est essentiel de faire ce qu'on aime et de la manière dont on. J'ai vraiment envie de défendre cette langue et d'écrire cette musique. En plus, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plutôt complexe d'écrire de la musique rock en français, quoi. Ouais. Parce qu'il faut phonétiquement, c'est beaucoup plus simple en anglais, quoi.
Ouais, donc, ouais. C'est le langage du rock. Ouais. La langue du rock.
C'est ça.
Quel est le public que tu cibles avec ta musique ?
Écoute, ça, c'est une question que je me pose pas du tout. Parce qu'à un moment, je crois qu'il faut faire de la musique parce que tu as envie de la faire et parce que tu as envie de partager des choses. Et puis, je me dis. Mais c'est surprenant parce que y a des gens bien plus âgés qui me disent qu'ils aiment la musique, et puis il y a des tout jeunes qui me disent qu'ils aiment ça aussi. Et il y a des jeunes qui écoutent du rap, par exemple, et qui m'ont parlé de le morceau La Mer, par exemple, ouais, avec évidemment un débit un peu plus, c'est pas du rap, hein, mais avec un débit un peu plus important et une écriture un peu différente. Et du coup, j'arrive à toucher en fait plein de gens, et je suis même parfois surpris.
Tu parles d'écriture différente, de débit différent. Tout à l'heure, tu parlais en termes techniques. Alors, moi, je ne suis pas musicien, mais tu parlais de 4-4, 4-5.
Oui.
Voilà, dans certaines chansons. Tu t'inspires de quoi, en fait, pour composer ?
Alors, je m'inspire vraiment de tout, et je suis constamment à la recherche de nouvelles émotions musicales. C'est-à-dire que moi, j'écoute vraiment tout type de musique. Alors évidemment, mon socle de base, c'est le rock, hein. C'est la musique rock, heavy rock ou peut-être un peu métal parfois, mais pas beaucoup non plus. Mais par contre, j'écoute de la musique indienne, j'écoute de la musique traditionnelle. Par exemple, j'utilise beaucoup du 7-4, donc pour ceux qui savent, c'est une métrique. Mais on retrouve beaucoup du 7-4 dans la musique turque, par exemple. J'utilise du 5-4. J'aime aussi tout ce qui est musique brésilienne avec le système des claves, etc. Donc moi, j'essaie vraiment de m'enrichir musicalement et d'incorporer tout ça dans ma musique, rock, heavy rock chanté en français.
Voilà. Ce qui peut parfois surprendre l'écoute.
Oui, j'espère d'ailleurs. C'est le but.
C'est un peu le but. Voilà. Alors, je propose qu'on écoute La Mer, hein, le deuxième morceau. Mmh. Et puis on en discutera juste après. Écoute, c'est du belge, on est toujours en compagnie de Diego Straz, hein. Merci Diego, nous avoir fait le plaisir de venir sur Ultrason.
C'est un grand plaisir pour moi.
Alors on a écouté le morceau La Mer qui figure sur ton album En Mouvement Constant. Ben, parlons un petit peu de cette chanson. Quel est le message que tu as voulu faire passer à travers ce morceau ?
Mais La Mer, en fait, c'était... Alors généralement, je n'explique pas les chansons parce que parfois... Et ça m'est déjà arrivé. On vient vers moi et on me dit voilà, j'ai écouté tel ou tel titre et quand tu dis ça et j'ai ressenti telle chose et
ouais, tu laisses un peu les gens s'approprier la chanson.
Parce que parfois les gens ont un sentiment différent de celui que j'ai voulu donner dans l'écriture et ça c'est juste merveilleux pour
moi. Ça te dérange pas ça.
Ah non, je trouve ça génial parce que en fait c'est une invitation au voyage. Moi je distille une émotion et puis à partir de là tu la captes comme tu peux par rapport à ton vécu, quoi.
Ouais, donc tu te dis pas, allez, merde, c'est une chanson en français, c'est quand même clair, les gens comprennent pas
non,
ce que je veux
non,
dire.
Non, parce que justement, je crois que dans mes textes, alors ici, peut-être sur cet album, j'ai été un peu plus précis dans ce que j'ai voulu dire, mais la plupart du temps, je suis très imagé. C'est très cinématographique, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup les textes de Bachung, par exemple, ou du chanteur Christophe. Moi, c'est pas mon style de musique, par exemple, Christophe, mais ses textes étaient complètement barrés et ils m'offrent la possibilité de rêver et de partir dans tous les sens. Et moi, ce que j'aime moins dans la chanson française, et c'est pour ça que je dis souvent, je ne fais pas de la chanson française, je fais du rock en français.
Ouais.
Et pour moi, la distinction est importante parce que, par exemple, quelqu'un comme quelqu'un comme Benabar, par exemple, qu'on entend moins maintenant, mais qui fait vraiment de la chanson française et qui écrit très très bien en français, va vraiment te détailler une situation. Et c'est superbement bien fait.
Oui, tu vas voir les images.
Tu vois tout, c'est clair, c'est évident.
Ouais.
Mais moi, ça ne me fait pas rêver. Et donc, voilà, c'est là la différence. Et c'est pour ça que je te parle de Bachung. Bachung, tout n'est pas clair. Mais ça, mais oui, mais
moi, je pense que pour lui non plus.
Mais peut-être aussi. mais moi ça me fait planer quoi. Par contre, et moi j'aime cette idée de d'amener des petits éléments, des bribes de mots et d'images, et après à toi de continuer l'histoire. J'aime fonctionner comme ouais. ça.
Alors tu parles d'images, on va quand même dire un petit mot sur la pochette, sur l'artwork.
Oui.
C'est toi qui réalises ça.
Oui. Ouais. Oui.
Donc. L'artiste, il fait tout, Diego.
Ben oui, oui. En fait, donc sur l'album précédent, c'était carrément une peinture à moi. Ici, c'est parti d'une photo. Mais oui, moi j'aime l'image. J'aime. En fait, au-delà de la musique, moi, ce qui me plaît, c'est créer un maximum, c'est être dans la créativité constante.
T'aimes bien tout faire toi-même, en fait. Tu sais tout faire, peut-être.
Oui, et parfois c'est compliqué parce que tu sais, quand tu fais beaucoup de choses toi-même, puisque effectivement, je suis multi-instrumentiste, j'enregistre mes albums, je mixe mes albums, je fais la pochette, mais à un moment, tu te retrouves très seul parce qu'il n'y a pas d'émulsion autour de toi. Il n'y a pas de. Tu sais, quand tu reçois un groupe, ils sont ici, ils sont au micro, ils sont deux, trois, il y a une énergie qui se crée, et puis quand ils sont en studio, il y a une énergie qui se crée. Et moi, cette énergie-là, je dois la créer moi-même, et je dois un peu faire des espèces de dissociations de personnalité parfois pour me mettre à la place. Parce que tu peux pas jouer de la basse comme tu joues de la guitare, et tu peux pas jouer de la guitare comme tu joues de la batterie. Et donc moi, je dois un peu faire une espèce de dissociation. Et puis parce que sinon tu n'as jamais de recul sur rien.
Ouais, ouais.
Mais par contre, c'est vrai qu'à un moment je me retrouve seul quoi. Et donc j'essaie maintenant de m'entourer de personnes et de trouver des équipes qui puissent partager vraiment ma musique. Et
là, quand tu crées, en fait, tu joues de tous les instruments.
Oui.
T'as un peu le Rémi Bricade.
Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça.
mais sur scène, tu t'entoures d'un groupe.
Oui.
Est-ce que c'est pas compliqué pour des gens qui arrivent après, qui n'ont pas participé à la création de l'album, un peu de s'approprier les morceaux ?
Bah, non, pas trop, parce que déjà, j'ai de la chance, c'est que je suis entouré de bons musiciens. Donc ça, c'est quand même pour les dates prochaines, d'ailleurs la première date qui sera le 28 mars, le 28 mars au Centre culturel de Morlanwé. Donc pareil, j'ai voulu faire profiter le terroir.
Ouais, ouais.
Et donc c'est un batteur qui s'appelle Nathan Maliba, qui est un très très bon batteur qui vient de Toulouse, lui. Et on a fait une répète ensemble, et il est arrivé. Il est rentré dedans très facilement, il m'a proposé des choses, et je pense que quand la musique est déjà assez, j'espère que ça ne fait pas trop prétentieux, mais en tout cas assez riche, je crois que c'est plutôt facile pour les musiciens. Ils ont du choix, quoi. Ils peuvent faire des choses. Et à la guitare, ce sera mon vieux copain, vieil ami qui s'appelle Joe Salamon, qui est aussi chanteur d'un groupe qui s'appelle ACTA.
ACTA, oui. Ouais, qu'on attend, hein, Joe. Il nous écoute.
Ah ben voilà. Et Joe me dit ouais, Diego, écoute, voilà, si t'as pas de guitariste, j'aimerais faire les guitares sur cet album avec toi, sur scène et tout. On est très amis depuis longtemps, et ça me paraît tellement évident que ce sera lui à la guitare.
Alors on va parler un petit peu de ton processus de création. On en a déjà touché un petit mot tout à l'heure. Comment naissent tes chansons ?
Alors il n'y a pas de logique, c'est-à-dire que parfois j'ai un texte, parfois j'ai écrit un texte, et il peut traîner même pendant longtemps, puis je repasse dessus, je peux réécrire. Parfois c'est juste une texture de son, ça peut être un frottement de main, je ne sais pas si on l'entend au micro, mais où j'y mets une distorsion et puis je vais mettre un flanger dessus, et ça va me donner une rythmique, un truc, et de là je peux partir. Parfois c'est une envie, vraiment une envie rythmique avec une vraie batterie. Et puis d'autres fois je compose, parce que beaucoup de gens composent au piano ou à la guitare, mais moi parfois je compose à la basse. Et j'ai vraiment pas de logique, et c'est ce que j'aime, parce que justement ça me laisse une liberté, le champ du possible est énorme, quoi. C'est-à-dire que parce que si tu fonds, enfin après il y en a qui le font très bien, mais si tu es tout le temps dans la même logique de création, j'ai le sentiment, en tout cas pour moi, j'ai le sentiment que je pourrais m'enfermer dans quelque chose de facile, mm-hmm. et j'ai pas envie de ça. Donc ça part vraiment dans tous les sens. Pour peut-être dans mon prochain album, il y aura peut-être le son du lave-vaisselle d'ailleurs. qui tournait parce qu'à un moment il tournait
à la Pink Floyd, ouais, téléphone, bah, ouais.
Mais c'est ça, à un moment il tournait et visiblement il devait y avoir une fourchette ou une cuillère, je ne sais pas, qui cognait de manière rythmique à peu près, et j'ai capté ça et je suis parti de là-dessus pour un morceau, je pense qu'il sera sur le prochain album.
Foison d'idées. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, on n'en parle pas.
Mais moi je suis pas contre les nouvelles technologies, c'est-à-dire que tu sais, quand tu analyses maintenant beaucoup d'albums, déjà on travaille tous avec des ordinateurs, parce que si tu veux être un puriste, déjà tu dis bah non, on travaille sur des vieilles bandes, etc. Mais c'est faux, là maintenant on travaille sur des ordinateurs, on trigue, donc triguer c'est quoi, c'est on remplace des sons par de faux sons par de vrais sons, ou je dirais de vrais sons préenregistrés. Et mais moi je suis très très ouvert aux nouvelles technologies. L'IA, ben je sais pas, ça dépend comment. C'est-à-dire que si tu n'as aucune compétence et que tu utilises de l'IA, peut-être que c'est pas intéressant. Mais si tu as des compétences et que tu utilises de l'IA de manière intelligente et qui peut t'apporter un plus encore à ta créativité, pourquoi pas? Ouais. Moi, j'en utilise pas.
Un peu comme une évolution, quoi. Tiens, ta musique, elle a évolué par rapport à ton quatrième album. Entre ton premier, deuxième, troisième, quatrième, ta musique a évolué.
Elle a évolué avec la technologie, ça, ouais. C'est sûr. Ah, mais inévitablement. Parce que, alors, mon premier album, parce que moi, finalement, j'ai quatre albums, mais mon premier est sorti en 2009. J'ai pas été hyper, hyper productif, sauf ces deux dernières années, finalement.
Mais comme Cabrel, finalement.
Oui, lui, en fait,
son album tous les 10 ans, lui.
Ouais, mais là, son processus, en fait, lui, c'est souvent, il sort un album, il fait à peu près 6 mois, 1 an de promo, puis il fait 2 ans de tournée, ouais. Et puis il remet encore au moins 2 ans pour écrire un autre album. Donc oui, au minimum, t'es entre 5 et 7 ouais, ans, quoi.
Il se met sous son arbre, il attend quelques années. Ouais, comme inspiration. Ouais.
Mais en tout cas, c'est sûr que l'évolution technologique, avec notamment maintenant les Pro Tools et les ordinateurs aussi, qui sont hyper performants, parce que les tout premiers albums que j'ai enregistrés, c'était encore sur bande. Donc, ensuite, ça a été avec les premiers ordinateurs, mais qui crachaient toutes les 12 secondes parce que c'était trop lourd. Et là maintenant t'es quand même avec des machines qui tiennent bien bien le coup, avec des plugins, avec donc des simulations de son qui sont hyper performants. Alors moi je travaille avec ce que j'appelle le meilleur des deux mondes, donc avec le temps j'ai accumulé du matos, ce qu'on appelle du hardware, donc du vrai matos, et j'aime encore faire de vraies bonnes prises de batterie, etc. Et parfois je peux, au-delà de ces prises là booster et améliorer les sons avec les nouvelles technologies, évidemment, mais j'aime vraiment mélanger les deux.
J'ai vu, en parcourant tes réseaux sociaux, que tu organisais des séances d'écoute de tes albums avec des potes. Voilà. C'est important pour toi d'avoir... Pourquoi tu organises ces séances déjà ? C'est pour avoir un retour, ton album est enregistré,
oui,
déjà.
Voilà. Oui.
Donc quel est le but un petit peu ?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il arrive un moment où quand tu fais tout... Quand tu es seul et que tu fais tout le temps dans ton coin, tu as besoin de partager. Oui, effectivement, quand on est au moment de l'écoute, tout est déjà là. Donc moi, quelque part, si tu veux, j'essaie d'être sincère avec la musique que je propose, donc je l'assume complètement. C'est pour ça qu'en général, je fais très peu écouter avant. Il y a quelques personnes... Je te parlais de mon ami Joe avant. Lui, il a eu l'occasion d'écouter... l'album avant, il y en a deux, trois autres. Je vais citer des noms. Toffolo qui est Olivier, voilà. Qui lui a eu l'occasion, il a même enregistré des voix sur mon album.
Ouais.
Donc il y a quelques personnes qui ont entendu, mais en général, je sais exactement où je vais et ce que j'ai envie de faire. Mais à un moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la réaction dans le regard de l'autre. Et ces écoutes servent à ça. Souvent, je m'installe de manière stratégique.
Ouais.
Et je regarde un peu les réactions des uns et des autres. Et je regarde sur quel morceau ils ont plus d'émotions, moins...
T'expliques un petit peu tes chansons ou tu laisses vraiment tout couler tu...
Alors, j'explique rien du tout.
Ouais.
On arrive, je les remercie. Parce que, tu sais, par exemple, les dernières écoutes, je voulais en faire une. J'en ai fait trois, finalement.
Ouais.
Puisqu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, « on aimerait bien venir ». Et comme je voulais que ça reste à échelle humaine, parce que je m'étais dit pas plus de 15 personnes, comme ça on peut dialoguer, on peut... Donc finalement, j'ai fait trois écoutes et je leur explique, je leur dis voilà, c'est mon nouvel album, j'en suis fier, allez-y, écoutez et après on en parle. Et j'aime bien fonctionner comme ça. Je pense que, parce que tu sais, cette espèce de lâcher d'émotion, c'est important. Et puis moi aussi, j'ai besoin de lâcher le bébé un moment, quoi.
Quel est encore l'intérêt pour toi de sortir un album ? Parce que maintenant, les gens, ils écoutent beaucoup en streaming,
oui.
consomment entre guillemets, morceau par morceau. C'est quoi l'intérêt de sortir un album ?
Eh bien, c'est de faire l'inverse de tout ça, en fait, hein, purement et simplement. Là, sur ce dernier album, on m'a encore conseillé, on m'a dit, écoute, sors pas d'album, sors un premier single, sors un deuxième, sors un troisième, et fais durer le truc. Et moi, je me dis... mais non, moi je peux sortir cet album déjà parce que j'avais envie de le faire comme ça, puisque un album, selon moi, c'est une histoire complète, c'est un moment de vie, c'est un Polaroid que tu tires, et puis une fois que la photo est sortie, tu peux plus la retoucher, c'est pas Photoshop.
Ouais.
Et c'est ça, pour moi les albums c'est ça, et donc il y avait de ça. Après il y a aussi un autre avantage, c'est que moi, pour être clair, je suis pas en manque de créativité. T'as beaucoup de personnes, ils sortent un single, ils essayent de l'optimiser et puis ils essaient d'en sortir un autre.
Ouais.
Mais
toi, t'as déjà de quoi en faire un cinquième.
Mais là, oui, j'ai déjà tout est... en fait, en général, de toute façon, quand je fais un album, je travaille sur je sais pas moi 15-16 titres et puis je fais seulement une sélection. Donc en fait, j'ai en plus des déchets dans chaque album que j'ai de côté.
Que tu peux travailler.
Que
pour
je pourrais.
Le suivant,
et c'est ce que je me dis à chaque fois. Et finalement, je recompose complètement un album après.
Ouais.
Donc, mais peut-être que là, par exemple, ici, cette année, comme je vais tourner, j'aurai moins de temps. Donc là, il n'est pas improbable que je décide, parce que j'ai envie aussi de continuer de créer, que je décide de sortir peut-être un single ou deux.
Ouais.
Mais ça, c'est plus par rapport au timing, quoi. Parce que je ne peux pas... tout bloquer, repartir en studio. Donc là, peut-être je le ferai dans ce sens-là, mais tant que j'ai l'opportunité de sortir des albums entiers et de raconter une histoire et d'offrir cette image du Polaroid,
ouais.
Je le ferai, quoi.
Donc là, cet album, tu vas le défendre sur scène, cette
oui,
fois.
Ouais, ouais.
On commence par où ?
Alors, on commence donc le 28 mars à Morlanwey, au Centre culturel Le Sablon. C'est marrant parce que dès que j'ai dit que je voulais commencer à tourner de nouveau, le directeur du centre culturel m'a appelé, je crois, le lendemain pratiquement. Il m'a dit, écoute Diego, j'ai vu que tu voulais tourner, sache que t'es le bienvenu. Donc moi, j'étais hyper flatté, c'était super. En plus, tu sais, c'est ma région, c'est chez moi, quoi.
Ouais.
Et comme pendant plusieurs années, j'étais pas souvent là parce que je vivais beaucoup dans le sud-ouest de la France, puisque je travaillais beaucoup avec les Cabrel, etc.
Il y a plus moche.
Oui, non. Après, je ne m'en plains pas, mais c'est vrai que le fait de me retrouver un petit peu au bercail, comme on dit, et puis aussi, j'ai le sentiment, et d'ailleurs, je fais un appel dans ce sens-là, qu'il y a plein d'amis à moi d'enfance qui seront là, quoi. Et c'est bien aussi de pouvoir se retrouver, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'essaie de refaire, et notamment je reviens juste un peu en arrière avec l'idée des écoutes. Pendant mes écoutes, moi j'appelle de vieux copains musiciens, et parfois de vieux copains musiciens que je n'ai plus vus, mais entre eux ne se voient pas forcément. Et récemment il y en a un qui me disait, putain c'est génial Diego ce que tu fais, on arrive à se revoir, si tu prenais pas cette initiative là on se verrait pas, quoi. Et pour mes concerts, si tu veux, mon idée c'est ça, c'est de peut-être recréer aussi cette envie, de se dire, hey, les gars, ok, je viens, on est à la maison, on peut se retrouver tous ensemble et faire la fête dans un lieu pas très loin de chez nous, quoi, finalement.
Oui, c'est ça, bah oui. Est-ce qu'il y a encore, bon, t'as joué sur des belles scènes, t'as fait les Franco, t'as joué au Canada, t'as joué un peu partout. Est-ce qu'il y a encore une scène qui te fait rêver, une scène sur laquelle t'as pas joué?
Non, parce que toutes les scènes sont importantes pour moi. J'ai pour moi, jouer dans un bar, c'est aussi important que jouer. Moi, j'ai eu l'occasion, je crois, le plus que j'ai fait, c'était 18 000 personnes. C'est très, ouais, très impressionnant. Ouais, mais c'est pas forcément là que tu kiffes le plus, en fait. Ouais. Parce que tu as ce côté. Alors, par contre, ce qui est génial, c'est quand tu dis allez, on tape dans les mains, forcément. Même si tu n'as que la moitié qui tape dans les mains, c'est très impressionnant. Mais par exemple, jouer dans un bar et voir chaque regard devant toi, ou parfois jouer dans un bar où il y a peu de monde, mais ça m'est arrivé, hein, plein de fois, là c'est impressionnant parce que tu joues pour trois personnes devant,
ouais,
toi.
Oui, c'est trois personnes qui sont venues te voir.
Exactement. Et là, ils vont pas te louper, quoi. Et donc, non, moi, pour moi, il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a des scènes? Non, pas jouer aux Francopholies de Spa, ça a été Spa, celui de Montréal et de La Rochelle, puisque j'ai fait les trois. Ça, pour ne citer que, ça a été génial, mais j'en ai fait plein d'autres. Mais je trouve que c'est tout aussi compliqué de jouer dans un bar que dans ces. Je te dirais même que dans un bar, c'est plus compliqué. Parce que finalement, l'acoustique est souvent moins bonne, le son est moins calibré, alors que quand tu es sur une grosse scène, tu as des rodistes qui t'aident, t'as des gars compétents qui sont là pour régler tes retours, machin et tout. Donc finalement, c'est les bars les plus, ouais, compliqués. Ouais. Et je vais en faire. Hein. Je me suis dit que je referais des bars. D'ailleurs, on va faire, après, pas que des bars, des petits clubs, etc. Je sais que je passe aux Deux Ours,
ouais,
vers le mois de. Voilà. Ouais. Je vais faire le Foxy Music à Carnion.
Carnion,
ouais. Le Canal 10 à Autrage, je cite, hein, un peu comme,
ouais,
ça,
ouais, ouais, ouais.
Mais bon, c'est il y a des endroits un peu plus grands, des endroits un peu plus petits, peut-être je crois le Carolo Culture aussi, le Primitive à Liège, qu'est-ce que j'oublie, enfin je sais pas, mais
on va pouvoir retrouver tout ça sur tes,
oui,
réseaux,
de toute façon, pense, ouais. Oui, mais il y aura de tout, et moi ça va être un kiff absolu, quoi.
Allez, bah écoute, on est impatient d'aller te voir, du coup. Alors, tes objectifs pour 2025?
Bah déjà, jouer un maximum, ça c'est la première chose, et vraiment concentrer les dates, donc la première date c'est le 28 mars, et les concentrer jusqu'à peu près juin et peut-être début juillet,
ouais.
Et après voir aussi, parce qu'il y a quelques propositions de festivals, mais rien n'est encore vraiment signé, mais de toute façon, moi là j'ai très très envie de nouveau d'écrire, hein, donc et donc selon ce qui va se passer, mais vraiment c'est se concentrer sur les 3-4 prochains mois,
mm-hmm,
où jouer, essayer de faire en sorte d'attirer énormément de gens, qu'on se retrouve, qu'on puisse échanger, qu'ils puissent avoir de l'interaction, parce que j'adore ça en sur scène, tu sais, quand t'as un mec qui tout d'un coup hurle et toi tu peux interagir, enfin moi je trouve ça génial, quoi.
C'est clair. Eh bien, merci Diego d'avoir accepté notre invitation. Hein. Merci d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview sur le site internet d'Ultrason, donc le www.ultrason.be, ainsi que sur les plateformes d'écoute, sur la page Facebook d'Écoute C'est du Belge. N'oubliez pas, soutenez les artistes, suivez-les sur les réseaux, partagez leur musique et surtout, allez les voir sur scène. À bientôt.
À bientôt, merci.